En début de semaine, je me suis aperçu que je devais vous parler. Et le 14 juillet, c'est toujours un moment de relâche pour moi. Et j'essaye toujours de préparer mon message à un moment où je suis au calme. Et j'ai commencé à penser, je dis, mais Dieu nous bénit tous les jours. Et j'ai commencé mon message. Et puis après, j'ai arrêté un peu. Et puis j'ai fait d'autres activités. Et le vendredi matin, j'ai appris ce carnage à Nice. Et je me dis, comment est-ce que je vais pouvoir parler des bénédictions de Dieu après un telle chose horrible, hein, là, sur la promenade des Anglais. C'est un endroit où nous sommes allés une ou deux fois à Nice, et je me vois encore me promener avec toute la famille. Et je me dis, si une telle chose était arrivée, et je ne peux pas mettre à la place des gens qui ont perdu de la famille, des proches. Mais quelle horreur. Et je me dis, mais comment est-ce qu'on peut se dire que Dieu donne des bénédictions? Et je me suis un peu plongé dans la parole. Et c'est vrai, Hubert l'a rappelé dans sa prière, depuis que le monde est monde, l'homme est fou. L'homme est fou pour se tuer comme ça, pour ôter des vies sans raison. Et je regardais ce passage en Philippiens, chapitre 4, verset 19, qui est dit « Mon Dieu comblera tous vos besoins selon ses richesses en gloire dans le Christ Jésus. » Et on raconte l'histoire d'un homme qui avait fait la guerre d'indépendance aux États-Unis. Vous savez, lorsque les Américains voulaient se libérer du joug anglais, et là aussi, il y a dû avoir des massacres des deux côtés. Et il était devenu, après la guerre, presque un SDF, on dirait maintenant, un clochard, hein, qui allait de maison en maison pour demander sa pitance, pour demander à manger. Et un jour, il entre dans une maison, et le propriétaire lui ouvre la porte et commence à lui donner à manger. Et il remarque qu'il a autour du cou un étui qui est attaché à un ruban. Et le propriétaire de la maison lui dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi ce truc qui pend autour de votre cou? Et le monsieur dit, il explique qu'il s'agit d'un porte-bonheur qu'il a reçu juste après la guerre, il y a bien des années. Et le propriétaire lui dit, mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Parce que c'est un étui. Le monsieur dit, je l'ai jamais ouvert. Jamais. Et alors, il ouvre l'étui avec ce monsieur et il en sort un papier tout froissé. Le monsieur ne savait pas lire, et donc il le tend au propriétaire de la maison. Et celui-ci découvre qu'il s'agit d'un certificat de libération de l'armée, hein, lorsqu'il avait fait la guerre, de l'armée fédérale, signé par le général Washington lui-même. Et dans ce papier, on lui disait qu'il avait le droit à une pension à vie. Et ce vieux soldat, consterné, apprend qu'il a, pendant près de 30 ans, porté sur lui la promesse d'une rente qui aurait dû lui venir tous les mois par le gouvernement fédéral américain, et donc qui aurait satisfait tous ses besoins. Et pendant 30 ans, il a été de porte en porte pour demander ses repas. Et finalement, parce qu'il n'avait pas réclamé, il avait vécu comme un démuni, un mendiant. C'est une histoire incroyable, mais c'est une histoire vraie que j'ai lue dans des livres d'histoire, qui ressemble beaucoup finalement aux histoires de nombreux chrétiens. Dieu nous fait tant de promesses, dans la parole. Il nous dit que celui qui croit en son Fils a la vie éternelle. Et pourtant, de nombreuses personnes restent dans le doute. Elles ne savent pas si elles seront vraiment sauvées. J'ai entendu des chrétiens qui me posaient la question, est-ce que je serai vraiment sauvé? Seigneur nous le promet, si nous lui obéissons. Et Jésus nous dit qu'il va nous préparer une place dans le ciel, afin que là où il est, nous serons aussi avec lui. Quel dommage de rester dans l'incertitude, quel dommage d'avoir cette promesse autour de notre cou et de ne pas savoir qu'elle existe. Et Jésus nous a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas moi comme le monde donne. Et c'est cette paix que nous devons avoir grâce aux promesses que Jésus nous dit. Alors cette faveur divine, elle existe depuis que Dieu s'occupe des hommes. En psaume chapitre 5, verset 12, il est dit « Car tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. » Donc cette grâce que Jésus nous donne, eh bien, il l'entoure comme d'un bouclier pour nous protéger. Dieu est notre source en toutes choses. Et quand nous avons une relation vivante et intime avec notre Seigneur, il nous bénit. Alors comment est-ce qu'on peut trouver ce trésor? Eh bien, c'est le verset que Anderson a lu tout à l'heure. Voici, c'est en Apocalypse 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Nous avons l'assurance que la présence de Dieu Tout-Puissant nous enveloppe continuellement et demeure avec nous au travers des difficultés qui sont parfois mineures, et puis des difficultés qui sont avec des problèmes qui sont beaucoup plus graves, beaucoup plus grands. En Hébreux chapitre 13, verset 5, il est dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Psaume 121, verset 8, « L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. » Donc vous voyez que cette présence de Dieu, pour nous bénir, nous entoure et elle nous protège. Et est-ce que, honnêtement, nous pouvons déclarer que cette présence divine que Dieu nous promet est pour nous toujours une réalité? Est-ce que dans nos vies, nous savons que Dieu nous entoure et nous protège? Si nous ne faisons pas l'expérience de Dieu dans notre vie de façon, je dirais, manifeste et permanente, eh bien, c'est à nous que la faute incombe, jamais à Dieu. Et mieux vaut se demander ce qu'il convient de faire pour percevoir cette présence. Est-ce que vous êtes sûr et certain que Dieu vous entoure de sa grâce et qu'il vous protège avec des boucliers? Comment renforcer et même exalter et mieux assimiler cette présence de Dieu? Comment affirmer notre perspective spirituelle? Qu'est-ce qui nous guide dans la vie? Que faire pour se sentir rempli de joie de sa présence? Eh bien, il faut connaître Dieu. L'apôtre Jacques nous dit au chapitre 4, verset 8, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » C'est l'histoire de la brebis perdue. Comment trouver Dieu? Souvent, on se pose la question, mais comment est-ce qu'on peut trouver Dieu? Eh bien, la réponse, vous n'avez pas à le trouver. Vous devez simplement vous laisser trouver. La parole nous apprend quelque chose, c'est que non seulement les hommes peuvent chercher Dieu, mais surtout Dieu cherche les hommes. On voit ça en Luc chapitre 15, verset 3 à 7. Voilà ce qu'il dit, c'est la parabole de la brebis perdue. Mais il leur dit cette parabole, « Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve? Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Jésus nous enseigne que le Dieu de l'univers s'est engagé dans la quête assidue de chacun d'entre nous. Vous n'êtes pas une personne perdue ou un quidam quelconque qui n'a pas d'importance aux yeux de Dieu. Dieu vous cherche. Alors il y a un grand personnage que vous connaissez, c'est le Mahatma Gandhi, qui a dit des choses extrêmement intéressantes, mais il a dit aussi des choses qui n'étaient pas vraies. Il a dit une chose: pour trouver Dieu, vous devez faire preuve d'autant de persévérance qu'un individu assis au bord de la mer et s'efforçant de vider cette mer goutte après goutte avec une paille. Et cette idée, elle est fausse. Ce n'est pas vrai. Ce grand homme avait tort. Nul besoin de rechercher laborieusement Dieu. Il suffit de se laisser trouver par Dieu, d'accepter ce don et d'appartenir pour toujours au donateur. Jésus veut entrer dans votre existence. Et il heurte doucement la porte. Apocalypse, toujours chapitre 3. Et donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Quand vous êtes chez vous et que quelqu'un frappe à la porte, vous ne savez pas toujours qui c'est. Ben Jésus, lui, il est là et il frappe à la porte. Dieu nous aime, mais son amour est tellement profond, trop respectueux pour étouffer notre personnalité. Il vient à nous uniquement si nous lui en donnons l'autorisation. Lorsque, par votre volonté, vous décidez d'accueillir Dieu avec foi, alors croyez que rien dans le ciel ni sur la terre n'a le pouvoir d'empêcher cette rencontre de Dieu avec vous. Rien. Souvent, la plupart des chrétiens ne comptent pas sur leur relation avec Dieu pour les rendre meilleurs ou les transformer soudainement. Et souvent, on a des regards dévisageants pour quiconque leur promet un changement de condition dans l'heure qui vient, comme si on professait une doctrine étrange. Ils se sont accoutumés, ces chrétiens, à la défaite. Et c'est affligeant. Nous avons un Dieu merveilleux qui peut faire des choses extraordinaires dans nos vies. Et la condition, je dirais, préliminaire à toute journée exaltante, à toute vie exaltante, consiste dans la pensée, dans l'expectative d'une journée ou d'une vie exaltante avec Dieu. Si nous n'attendons rien d'extraordinaire de notre Dieu, nous n'aurons rien. Dieu nous donne les choses, à nous de les prendre. La parole nous présente un Dieu qui aspire à entretenir une relation vraiment profonde avec nous. En Jean, chapitre 14, verset 23, « Si quelqu'un m'aime, mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Si quelqu'un m'aime. Souvent, on entend parfois même des chrétiens se poser des questions sur leur foi, sur Dieu, et notre attitude envers Dieu dépend de ce qu'on attend de lui. Une attente pleine de joie, de tout ce que peut nous donner le Seigneur, donnera à notre vie une vie exaltante et merveilleuse. Il y a un prédicateur écossais qui a dit « La foi est largement composée d'attentes, une attente attisée par le Saint-Esprit. » Il faut que l'Esprit de Dieu soit en nous pour attendre quelque chose de Dieu. Dieu est là à nous donner toutes ses bénédictions. Parfois, malgré notre foi, nous sommes anxieux. Et j'en parle par connaissance de cause. Nous sommes parfois anxieux, surtout, peut-être vous avez des insomnies la nuit. Et vous vous dites, vous êtes inquiet. La nuit est quelque chose qui nous inquiète. Hein. Quand on ne dort pas, on pense à des tas de trucs, on imagine des tas de trucs. Il y a une chose qu'il faut se dire, c'est que Dieu nous dit, endors-toi maintenant. Quant à moi, je reste éveillé et je veille sur toi. Dieu est un Dieu d'amour qui nous permet de triompher avec lui. Pas seulement dans le futur. Souvent, on pense à la vie éternelle et on a raison d'y penser. C'est dans le futur, proche ou pas proche, mais quand nous pensons à cela, il ne faut pas oublier que Dieu est là aussi pour nous dès aujourd'hui. En psaume 16, 11, il y a d'abondantes joies devant ta face, de délices éternelles à ta droite. Des délices éternelles. Dieu nous promet des bénédictions. Une foi qui serait triste, torturée, est une foi qui n'est pas soutenue par le Saint-Esprit. Elle manque de vaillance de l'esprit, de la vision du plan de Dieu. Elle manque de la confiance dans les promesses de Dieu. Et quand je préparais ce sujet, je me dis, oh, je vais aller à la CLC, trouver un bouquin sur les promesses de Dieu. Et je suis tombé sur un petit bouquin qui ne parle que de la parole et le guide personnel des promesses de Dieu. J'ai redécouvert des choses que j'avais presque oubliées. Il y a 866 promesses de la parole de Dieu dans ce petit livre. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ça vous redonne le moral pour une bonne journée avec Dieu. Et donc, il nous faut demander à Dieu de réactiver notre esprit, de croire que Dieu est un Dieu extraordinaire qui nous bénit dans ses promesses. Et de croire à la puissance de Dieu, aux choses extraordinaires que Dieu peut faire pour nous. On peut être découragé, je le suis parfois, mais par Dieu, pas par Dieu, on peut être découragé par nous-mêmes. Car si notre foi faiblit, c'est souvent que nous voulons bien qu'elle faiblisse. Et si nous plaçons notre confiance dans les choses du monde, évidemment, nous serons toujours des losers. Avec Dieu, nous sommes des winners, hein, des gagnants, des gens qui sommes bénis par Dieu. Même si, lorsqu'on voit les événements qui se passent en ce moment, c'est tellement difficile de parler des bénédictions de Dieu. Mais peut-être la seule chose qui reste à ces gens qui ont tout perdu, c'est de se tourner vers Dieu pour qu'il les aide à surmonter cette chose horrible qu'est la perte de gens par un accident tel accident. La foi, pour nous, chrétiens, c'est notre arme. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 4. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous avons des forteresses à renverser tous les jours dans nos vies. Si nous faisons allier avec Dieu, nous allons les renverser. Si nous ne laissons pas l'Esprit de Dieu entrer en nous, nous allons perdre, c'est sûr. Nous serons plus que vainqueurs avec Dieu. Donc ce matin, je voudrais vous encourager à relire les bénédictions que Dieu nous donne et à les laisser entrer dans votre cœur pour qu'elles soient présentes. Même dans les difficultés, les problèmes, nous avons tous des soucis, chacun à notre niveau. Des choses qui peuvent paraître des petits soucis pour certains sont des grosses forteresses. Et puis, on voit des gens avec des forteresses à vaincre et qui arrivent à les vaincre parce qu'ils sont avec Dieu. Moi, je vous encourage vraiment à relire les promesses de Dieu et à les vivre dans vos cœurs. Amen.